France Culture. Le journal Marie-Hélène Duvigneau.
Bonjour à tous, il est 9h. Une nouvelle aide militaire française à l'Ukraine, 195 millions d'euros grâce aux intérêts des avoirs russes gelés, annonce du ministre des Armées Sébastien Lecornu qui détaille par ailleurs les besoins urgents de nos forces pour s'adapter aux incertitudes géopolitiques. L'Ukraine qui subit un nouveau revers à l'heure où la perspective de pourparlers semble se renforcer, la Russie revendique la reprise de 3 villages dans sa région de Koursk face aux troupes ukrainiennes. Et puis, au moins 745 civils tués ces 3 derniers jours dans l'ouest de la Syrie, des victimes essentiellement alaouites, minorité dont est issu le clan Assad, le nouveau pouvoir syrien dit œuvrer à ramener l'ordre. Alors que la France doit accueillir mardi les chefs d'état-major de pays alliés, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, analyse les conséquences de la bascule géopolitique sur le continent européen et les conséquences en termes de réarmement. Dans un entretien accordé à la Tribune dimanche, il annonce une nouvelle aide à l'Ukraine, 195 millions d'euros grâce aux intérêts des avoirs russes gelés et détaille ce qu'il estime être les besoins prioritaires de l'armée française. Les munitions et la guerre électronique, la dronisation et la robotisation des armées ainsi que l'intelligence artificielle et le spatial. Mais il se veut aussi plutôt rassurant, Christian Chéneau.
Ne pas dramatiser, mais être lucide et conscient des risques. Tout ce que l'on a connu jusqu'à présent est remis en question, constate Sébastien Lecornu. Les États-Unis sont-ils encore nos alliés ? Oui, répond le ministre, et cela en dépit de leur grande imprévisibilité. L'arrêt des livraisons d'armes américaines est un coup dur pour Kiev, reconnaît Sébastien Lecornu, qui considère que les Ukrainiens peuvent encore tenir quelques temps. En tout cas, pas question de suivre l'exemple américain. La France va maintenir son soutien militaire à Kiev, aussi bien en termes de livraison d'armes que de renseignements stratégiques. Les équipements seront prélevés sur les stocks de l'armée, comme des chars AMX, des véhicules de l'avant blindés, des obus de 155 mm ou encore des bombes planantes AASM qui arment les Mirage 2000 ukrainiens. Sans doute, pour rassurer les Français inquiets de la montée des tensions internationales, le ministre prend bien soin de préciser que le réarmement actuel et futur du pays ne doit pas être compris comme des efforts de guerre, mais de défense et de dissuasion, car nous ne sommes pas en guerre, assure Sébastien Lecornu.
Sébastien Lecornu qui annonce aussi qu'il se rendra prochainement à Washington. Pendant ce temps, l'Ukraine subit de nouveaux revers. La Russie annonce la reprise de 3 villages dans sa région de Koursk face aux troupes ukrainiennes. Dans la région de Donetsk, à l'est, 11 personnes ont été tuées. La Russie continue ses frappes d'envergure à travers tout le pays. Dans le sud, les habitants essaient malgré tout, malgré les alertes aériennes, de profiter de l'arrivée des beaux jours. Virginie Perronon est sur place à Mykolaïev. Reportage.
Un grand ciel bleu, une température de 20 degrés. Sur les bords du fleuve qui traverse la ville, les familles pique-niquent dans une bonne odeur de grillade. Ruslan, 40 ans, est venu avec sa femme et sa fille de 2 ans.
Il y a des jeunes, des enfants, c'est très festif. J'oublie que c'est la guerre. C'est une super ambiance. Il faut profiter du moment présent, car on ne sait pas de quoi demain sera fait.
Alexandra, sa femme, dit en avoir assez de rester chez elle depuis 3 ans. Alors tant pis si au loin, une alerte aérienne retentit.
Une voyante m'a dit que je vivrai 80 ans. J'en ai 36, il me reste donc 50 ans à vivre. Pas la peine de courir dans un abri. Si ça nous tombe dessus, ça nous tombe dessus.
Vlada, 22 ans, est venue avec son mari militaire, capturé par les Russes au début de la guerre sur l'île aux serpents. Il y a une telle ambiance, même s'il y a des frappes, même si c'est la guerre. Parce que on a beaucoup d'amis dans l'armée, beaucoup d'amis dans les villes où ça tape très fort. Et une journée comme ça, ça apaise un peu. Aujourd'hui, dit-elle en regardant son fils de 2 ans courir au bord de l'eau, l'Ukraine perd beaucoup d'enfants, il faut que cette guerre s'arrête.
Virginie Pironon dans le sud de l'Ukraine avec Martin Troadec et Yachar Fazilov. Et la perspective de pourparlers semble se renforcer. Le président Zelensky a annoncé qu'une délégation ukrainienne composée notamment de ministres rencontrera une équipe américaine mardi en Arabie Saoudite. Washington avait affirmé que cette réunion devait définir un cadre pour un accord de paix, mais Kiev est resté plus vague. Nous espérons discuter et trouver un accord sur les décisions et étapes nécessaires, a dit Volodymyr Zelensky en rappelant que son pays voulait la paix. France Culture, 9h04, 72 heures de chaos en Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 745 civils, essentiellement des Alaouites, ont été tués ces trois derniers jours dans l'ouest du pays. Ces violences sont les premières de cette ampleur depuis la prise de pouvoir le 8 décembre d'une coalition rebelle emmenée par le groupe islamiste radical sunnite HTS. Arthur Saradin, vous êtes notre correspondant dans la région. Alors, sait-on qui est à l'origine de ces massacres ?
Eh bien, à vrai dire, en ce moment, la situation est des plus incertaines. Le bilan humain est toujours provisoire, mais les morts civiles se comptent par centaines, majoritairement des hommes, mais aussi des femmes et des enfants. Ils se concentrent sur la côte syrienne, dans les villes de Tartous et de Latakié, des villes avec une grande communauté alaouite, celle de l'ancien dictateur Bachar el-Assad. Ces villes où les soutiens du régime ont semé le chaos ces derniers jours, avec des attaques coordonnées contre des civils et le nouveau pouvoir. Ces combattants loyalistes sont encore traqués par les nouvelles autorités, promettent pourtant de récidiver. Le président syrien par intérim, Ahmed el-Shara, a appelé à ne pas faire de punition collective et de ne pas tuer des civils. Mais certains combattants en ont décidé autrement. Sur place, plusieurs témoins des massacres parlent de miliciens pro-turcs, de l'ANS, de djihadistes d'Asie centrale, c'est-à-dire Ouïghours et Kirghizes. On a là toute une galaxie de combattants islamistes qui déjà depuis quelques temps commencent à contester le pouvoir du nouveau président et auraient ainsi perpétré ces massacres.
Et aujourd'hui, Arthur, on peut espérer un retour au calme ?
C'est en tout cas le plus grand défi qui s'impose aux nouvelles autorités depuis la chute du régime d'Assad. Il faut bien comprendre le contexte dans lequel se joue cette séquence. Ahmed el-Shara a promis ce mois-ci un nouveau gouvernement, une assemblée citoyenne pour assurer une transition démocratique. Il a même déjà nommé un comité chargé d'écrire une ébauche de constitution, en partie composée par des laïcs. Le risque alors, c'est que des islamistes frondeurs s'opposent à ce projet. Ces trois derniers jours, plusieurs radicaux, des anciennes forces rebelles, auraient été parmi les acteurs des massacres alaouites. Pour eux, l'enjeu est d'empêcher tout bonnement cette transition aux antipodes de leurs ambitions djihadistes. Ahmed el-Shara a alors promis que ceux qui se sont rendus coupables de crimes de guerre seront arrêtés, jugés. Sa crédibilité sera évaluée à l'aune de cette promesse. S'il n'est pas capable de purger ses rangs et de stabiliser la situation, il sera encore plus difficile d'unir une Syrie toujours morcelée en différents bastions de groupes armés. Et le chaos, lui, pourrait s'installer durablement dans le pays.
Le retour de la violence en Syrie avec Arthur Saradin. Autre zone où la situation sécuritaire se dégrade, la Cisjordanie occupée. Selon les chiffres divulgués par l'UNRWA, l'agence onusienne en charge des réfugiés palestiniens, au moins 5000 enfants palestiniens y sont privés de classe. Alors à quoi ressemble leur journée ? Amira Swilem est allée à la rencontre de certains d'entre eux à Jenin, dans le nord de ce territoire palestinien où Israël mène des opérations visant officiellement à déloger les groupes armés. Des incursions qui ont des conséquences directes sur le quotidien des enfants. Reportage.
Avec son petit frère Farouk, Ranim, 17 ans, nous fait visiter l'appartement familial qui prend des allures ces jours-ci de petite école.
Ma grande sœur étudie dans notre chambre, ma petite sœur sur le balcon, moi dans la deuxième chambre et la dernière dans le salon.
Une situation face à laquelle Rima, la maman, elle-même enseignante, se sent bien dépourvue.
En plus, elles doivent étudier avec le bruit des chars et des bulldozers. Une fois, je me souviens, en plein cours, on a appris que l'armée se rapprochait de chez nous, alors on a commencé à se préparer à partir.
Ranim et sa fratrie vivent confinés à la maison. C'est la façon qu'ont trouvé leurs parents de les protéger de la violence extérieure. À quelques encablures de là, un appartement a été visé par l'armée israélienne dans la nuit. De la fumée s'en échappe encore. Des grappes d'enfants jouent dans cette rue parsemée de traces de sang, encore frais, et de carcasses de voitures. Yusr et Mohamed ont 10 et 11 ans. Et dites-moi, vous savez ce que vous voulez faire plus tard quand vous serez grand ?
Combattant.
Avec cette vaste opération militaire en Cisjordanie occupée, Israël affiche le souhait d'éradiquer les groupes armés qui y opèrent, les rendant, paradoxalement, plus attractifs pour une certaine frange de la jeunesse palestinienne.
Amira Swilem à Jenin, en Cisjordanie. À Gaza, le Hamas appelle à négocier la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu avec Israël, évoquant des signaux positifs lors de discussions hier au Caire. Israël annonce pour sa part l'envoi d'une délégation demain au Qatar, l'un des pays médiateurs avec l'Égypte et les États-Unis, dans le but de faire avancer les négociations. Le Parti libéral au pouvoir au Canada choisit aujourd'hui le remplaçant de Justin Trudeau. Celui ou celle qui sera élu à la tête du parti de centre-gauche est appelé à devenir Premier ministre. Il faudra probablement attendre quelques jours pour une passation de pouvoir. Un ancien banquier central, novice en politique, Marc Carney, est donné largement favori. Justin Trudeau avait annoncé sa démission début janvier, discrédité dans les sondages, lâché par son propre camp et moqué par Donald Trump. Il a réussi ces dernières semaines à redorer son blason aux yeux des Canadiens en tenant tête au président américain dans sa guerre commerciale. Le temps, aujourd'hui, ça se dégrade par le sud et l'ouest avec des pluies soutenues, parfois orageuses dans le sud-est et un fort vent d'autant, une dégradation qui se décale au fil des heures vers le nord. Les températures au meilleur de la journée, 13 à 18 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 21 à 22 en Corse.